OK. Donc, on continue. Bienvenue ce soir encore à notre étude du lundi soir dans l'Épître aux Éphésiens. On est rendu au chapitre 6. On va commencer ce soir le chapitre 6. On avait fini la semaine passée le chapitre 5 avec la section qui nous parle de l'autorité soumission, un principe qui est établi par Dieu puis dans différentes sphères de la société. Commencer comme ici dans le couple, puis après ça la famille, puis il va nous parler ensuite de ça comme du milieu de travail. Mais il y a d'autres aussi, il y a d'autres sphères où l'autorité soumission, on pense à les gouvernements, l'autorité civile et les sujets, on pense aussi dans l'Assemblée. Dans l'Assemblée, il y a des anciens, puis ceux qui se soumettent aux anciens. Mais c'est un principe qui nous vient de Dieu, parce que l'autorité suprême au-dessus de tout cela, c'est Dieu lui-même. Dieu, puis on sait que Satan, il s'est rebellé à l'autorité de Dieu, comme il était un être créé par Dieu. Et il s'est, à cause de sa beauté, puis de ce que Dieu lui avait donné, il s'est rebellé contre Dieu, puis il a entraîné toute la création dans la rébellion. Mais on voit un autre, le Seigneur Jésus-Christ, qui lui vient dans cette création-là, puis étant égal à Dieu, il se soumet à son Père. Puis il ramène ceux qui va racheter, il les ramène dans une soumission à Dieu. Puis c'est ce qui va être merveilleux pour l'éternité. On va être soumis au Père dans toute l'éternité. Puis ça va être l'harmonie. Parce que briser ce principe-là cause le désordre. Le désordre, c'est vraiment la caractéristique de l'ennemi de Satan, parce que lui, c'est le désordre, la confusion, tandis que Dieu est un Dieu d'ordre. Puis imaginez-vous, s'il n'y avait pas d'ordre dans le système planétaire qu'on connaît, ça n'irait pas bien. Mais cet ordre-là, il est bien établi, puis ça fait des 1000 ans que ça existe, puis ça fonctionne toujours bien. Fait que, avant d'aller plus loin, on va lire notre passage, on va lire le chapitre 6 d'Éphésiens, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, inclusivement. Puis ensuite de ça, on va recommencer notre étude. Donc, Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. On va demander au Seigneur de son aide. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois pour ce soir, tous ceux qui se sont réunis ensemble. Seigneur, on est réunis autour de ta parole, puis on veut que tu nous enseignes ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit aussi qui nous dirige et qui nous fait comprendre. On te remercie pour le fait que ta parole est la vérité et qu'on peut s'y fier entièrement, Seigneur. Parce que même pour le salut, tu nous as montré le salut dans ta parole et c'est dans ta parole qu'on a eu confiance, Seigneur. On a pris au mot ta parole et tu nous as sauvés. Puis maintenant, pour la marche, comme notre étude dans Éphésiens, ben c'est la marche maintenant. On continue à marcher d'une façon qui soit avec circonspection, qu'on fasse attention, Seigneur, pour bien démontrer ta puissance dans nos vies. On te remercie pour toutes ces choses. On te rend grâce au nom et pour la gloire de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ici, comme on a lu, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Puis là, il dit, honore ton père, ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'instruction n'est pas longue. Quand on ne veut pas se soumettre, on dit, ben pourquoi? Mais pourquoi on a des questions? Pourquoi? Ben, la soumission ne pose pas de questions. La soumission se soumet. Puis c'est la tranquillité, vraiment. Mais ce principe-là d'autorité-soumission dans notre passage ici, la semaine passée, on a vu qu'il a commencé avec le mari et la femme. Puis vous savez, le mari et la femme, quand il y a un couple se marie, bien c'est le commencement de la famille. Ensuite vont venir les enfants. Mais le principe commence avec le mari et la femme. C'est pour ça que c'est bien important que ce principe-là soit bien établi dans la relation du couple. Parce que si ça fonctionne bien au niveau du couple, parce que le couple va devenir le père et la mère vont devenir l'exemple à suivre pour les enfants. Vous savez, en tant qu'enfant, on suit beaucoup l'exemple de nos parents. Moi, je me suis rebellé quand j'ai grandi, puis je suis parti de la maison. Puis je me rebellais, je remettais tout en question ce que j'avais appris de mes parents pour me rendre compte par la suite que je l'avais quand même. J'avais quand même reçu cet enseignement-là, j'avais quand même reçu cet exemple-là, puis les choses que, il y avait des bonnes choses que j'avais connues dans mes parents, puis ça se retrouvait dans ma vie. C'était pas mauvais, c'était bien. C'est que, c'est ça, les parents deviennent un exemple vraiment, parce que dès l'enfance, on apprend, là. Dès l'enfance, on suit l'exemple de nos parents. Parce que on voit que si la maison est en désordre, bien, les enfants vont être en désordre. Si la maison est en ordre, si le principe est bien appliqué d'une bonne façon dans le couple, eh bien, les enfants vont naturellement le voir en fonction, puis ils vont pouvoir modeler leur façon d'agir selon ça. C'est comme si on ne se pose pas la question, ça va bien, ça fonctionne bien, on continue. Ça ne veut pas dire par là qu'il n'y aura pas nécessairement des enfants rebelles. Ça arrive quand même. Puis même, il y a des parents, des fois, qui ont eu des enfants, puis ça allait très bien avec les premiers, puis à un moment donné, il en vient un autre que lui, ça ne va pas bien du tout. Lui, il a un esprit rebelle. Les enfants ne sont pas tous pareils, mais en général, on parle en général, quand on a le bon exemple devant nous, bien, ça va aider à fonctionner de la bonne façon. Donc, si la première étape dans le couple va bien, la suite sera beaucoup plus facile. Si, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que ça va toujours être parfait, mais à cause du péché, mais si ça va être beaucoup plus facile. La relation entre les parents va mettre son empreinte sur la relation avec les enfants. Puis ça, c'est vraiment. Moi, je travaillais une fois, j'étais en train de construire un patio, un endroit, puis il y avait une madame, là, qui était la belle-mère du monsieur, et elle avait 74 ans. Puis quand je coupais les morceaux, elle les ramassait. Puis elle disait, mon père disait toujours de ramasser les morceaux. Je me disais, ouais, mais son père, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, là. Puis elle avait comme 74 ans, puis elle avait appris ça, puis ça avait resté avec elle, puis elle faisait le ménage à mesure que je coupais les morceaux de bois. On voit que ça met son empreinte vraiment sur les enfants. Un père qui ne manifeste pas une autorité dévouée, ça c'est important. On a vu l'instruction, il y avait l'instruction pour la femme, il y a l'instruction pour l'homme aussi. Il faut que le père, qui est le chef de famille, bien, il faut qu'il ait une autorité bien dévouée, qui ne pense pas à lui-même, mais qui fasse passer avant lui-même sa femme et ses enfants, qui pense à eux dans ses décisions, qui pense à leur bien en premier. Puis s'il fait ça, si le père, ça commence avec lui vraiment, c'est lui qui va donner la direction pour la marche. Puis la mère, ça va être facile pour la mère de se soumettre. On avait parlé de ça la semaine passée. Si une jeune femme, elle choisit à qui elle va se soumettre. Mais c'est important qu'elle choisisse un bon mari, quelqu'un qui va prendre soin d'elle, à qui ça va être facile de se soumettre. Mais même si son mari n'est pas facile, on avait vu que pour le Seigneur, puis ça revient toujours à ça, c'est toujours envers le Seigneur qu'on est redevable en premier. Donc, un père qui ne manifeste pas une autorité dévouée, qui pense à sa famille en premier, et une mère qui ne respecte pas l'autorité du père, ben, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va teinter leur propre autorité envers les enfants. Ça, c'est important. Des fois, on se demande pourquoi les enfants sont rebelles, mais est-ce que nous autres, on est rebelles? Je marchais dans un magasin avec mon petit-fils, puis il touchait à tout. pour me rendre compte que je faisais la même chose. Fait que lui, il me suivait, puis je touchais. Quand je voyais quelque chose, je le touchais. Puis là, j'ai dit, touche pas, mais moi, il me voyait faire, puis il faisait la même chose que moi. Fait que c'est important. On réalise pas comment les enfants, comment ils observent les parents. Puis ils vont se modeler à ça. Fait que c'est important, là. Une mère qui respecte pas l'autorité du père, puis le père qui ne prend pas un soin dévoué pour sa famille, mais ça va causer un problème dans la famille pour le modèle qu'ils vont donner pour les enfants ici, là. Mais dans le verset 1, on voit comme dans les autres sphères de relations qu'on a vues, ça commence avec ceux qui sont en soumission, dans la soumission. Au verset 1, il dit « Enfants ». Donc, c'est les enfants. « Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Donc, c'est les enfants ici, c'est ceux qui ont la responsabilité de se soumettre à l'autorité. Parce que une chose, comme on a dit, premièrement, c'est envers le Seigneur. Ça fait que, comme on avait dit dans la relation dans le couple, dans le père et la mère, l'homme et la femme, bien, on le fait pour le Seigneur, comme il dit ici, selon le Seigneur, car cela est juste. Fait que si les parents ne sont pas un bon exemple, ça n'excuse pas les enfants de ne pas se soumettre. S'ils ne se soumettent pas, bien, ça va être un problème devant le Seigneur pour eux autres. Puis ça va causer des problèmes parce que les instructions du Seigneur sont toujours bonnes envers nous. Quand on suit les instructions du Seigneur, ça fait en sorte que notre vie va être plus facile dans un sens. Donc, c'est notre responsabilité de se soumettre parce que c'est envers le Seigneur, indépendamment de l'autorité qui a été déléguée, de la façon que l'autorité, on ne dit pas, ben, c'est parce que là, si on se met à faire des excuses, on dit, ouais, mais nos parents n'étaient pas un bon exemple, ben, non, ça, devant le Seigneur, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment qu'on puisse être un bon exemple. On l'avait vu dans le cas de la femme, elle devient un bon exemple, même si le mari n'était pas un bon mari, ben, elle pouvait le gagner sans parole, pour démontrer une conduite pure et chaste devant le Seigneur. Elle est faite par amour pour le Seigneur. Mais il faut voir plus haut que l'autorité qui est ou de, que, qui, pour voir l'autorité qui est au-dessus de l'autorité qui a été déléguée envers nous. C'est ça comme dans le chapitre 5 et verset 1, il disait, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Puis c'est comme au Seigneur. Puis dans le chapitre 1, 6 et verset 1, il dit que selon le Seigneur, car cela est juste. Donc c'est juste. Puis quand on est sauvé, ben, il faut apprendre à bien agir dans notre rôle. Ou on pourrait dire, c'est parce que le Seigneur l'exige. Selon le Seigneur, car cela est juste. Ou on pourrait dire, car le Seigneur l'exige. Au verset 2 et 3, il cite la loi pour son argument. Parce que là, Paul est en train de donner un argument pour dire qu'il faut se soumettre. Puis là, il cite la loi. Il dit, honore ton père et ta mère. Puis, en parenthèse, il dit, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, c'est le premier commandement qui nous donne une promesse parce qu'il dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, il y a une promesse de fait avec la façon qu'on va honorer notre père et notre mère. Afin que comme il dit ici, afin que tu sois heureux, premièrement, et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si on n'est pas heureux, ben ça ne va pas bien. Puis, si notre vie est écourtée, ben ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu voudrait qu'on soit mieux. Mais il cite la loi parce qu'il dit dans Exode 20, verset 12, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est sûr que si quelqu'un est rebelle à ceux qui ont le plus grand intérêt pour lui, parce que les parents, ils ont un grand intérêt pour leurs enfants, naturellement ou habituellement, généralement, les parents veulent le bien pour leurs enfants. On essaie d'élever nos enfants pour les entraîner. Au début, comme je disais à mon petit-fils, on les nourrit, mais en vue qu'à un moment donné, ils commencent à être capables de se nourrir eux-mêmes. Puis en avançant dans la vie, bien, on leur apprend comment être autonomes pour qu'un jour ils puissent partir à leur compte, puis former une famille aussi, ou vivre dans la société. Donc c'est ça le but. Puis c'est sûr que si on apprend bien ce principe-là dans la famille, ça va être beaucoup plus facile dans la société quand on va arriver sous d'autres autorités. Puis on va. Moi, j'avais été bien instruit, mais j'ai été rebelle jusqu'à temps que je trouve le Seigneur. J'étais rebelle, puis c'était pas facile d'être rebelle. Vous savez, toujours aller à contre-courant, c'est pas facile. Ça fait une vie difficile. Puis je me causais beaucoup de problèmes en étant rebelle. Mais quand j'ai connu le Seigneur Jésus, ben, le Seigneur m'a montré à être soumis, puis à écouter. Puis ça a devenu beaucoup plus facile. Vous savez, quand on est des gens qui brisent la loi tout le temps, on n'aime pas voir les polices arriver chez nous, ou on n'aime pas les voir. Mais quand on n'a rien à se reprocher, ça ne nous dérange pas parce qu'ils sont là pour notre bien, ils sont là pour nous protéger. Puis quand on est dans une situation dangereuse, on est content de les voir arriver. Mais il faut apprendre à se soumettre. Donc, ceux qui ont un grand intérêt pour notre vie, là, ben, ça, c'est nos parents. Nos parents, d'habitude, ils ont toujours un grand intérêt pour nous autres. Ils veulent qu'on puisse bien aller dans la vie. Puis, mais si on est rebelle à eux, là, ce n'est pas la recette pour avoir une longue vie. Au moins, une vie joyeuse ou heureuse, là. Quand des gens qui sont vraiment rebelles, souvent leur vie est courte parce qu'ils se mettent dans bien des troubles, puis bien des problèmes, puis des situations dangereuses aussi, qui fait souvent en sorte que leur vie est écourtée. On voit ça, hein, des gens qui étaient vraiment rebelles, puis tout d'un coup, il arrive quelque chose, puis ils sont partis, soit un accident ou quelque chose de même. Dans l'Ancien Testament, on voit que si un fils était rebelle, ben, il devait être lapidé. Pour montrer l'exemple aux autres, parce que ça arrivait dans ce temps-là aussi, qu'il y avait des fils rebelles. On va aller dans Deutéronome au chapitre 21. Dans Deutéronome au chapitre 21, puis on voit ici qu'est-ce qui arrivait avec un fils rebelle. Ça n'était pas quelque chose qui était joyeux non plus, là, mais sa vie était écourtée. Là. On voit ça au chapitre 21 de Deutéronome, les versets 18 à 21. Il dit ici, Deutéronome 21, verset 18. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de sa ville le lapideront, et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Donc, c'est sûr que si on assistait à une séance comme ça, où un fils rebelle se faisait lapider, ben, ça faisait une crainte pour les autres. Hein? Enfin, ça veut dire, si je fais la même chose, ben, c'est ce qui va m'arriver, je vais avoir un jugement qui va venir. Mais dans le Nouveau Testament, c'est sûr qu'on ne fait pas ça. Israël avait la loi civile entre les mains parce qu'ils étaient non seulement, ils n'avaient pas seulement les instructions pour leur vie religieuse, mais ils avaient aussi les instructions pour leur vie civile. Parce qu'Israël, eux, c'était un peuple qui gérait religieusement. Il y avait les sacrificateurs qui géraient religieusement pour Dieu, mais il y avait aussi le roi qui gérait civilement pour le peuple. Donc, le Seigneur, lui, mais le Seigneur, il a pris notre place. Comme quand on était rebelle, le Seigneur a pris notre place. Puis c'est lui qui a pris la place de ce fils rebelle que nous étions. Il l'a pris dans le jardin de Gethsemane. On va dans Luc 22, 41, il dit, puis quand il priait, le Seigneur était avec ses disciples, il est allé dans le jardin de Gethsémané, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Donc il se place dans la position, la distance d'un jet de pierre, on aurait pu lui jeter une pierre, là. Mais on sait que le Seigneur, à ce moment-là, ben, il anticipait le jugement qu'il recevrait pour nos péchés. Parce qu'il était devant son père, puis il disait, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas toutefois ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Donc c'est lui qui allait se placer à la place du fils rebelle pour recevoir le jugement que nous méritions. Nous qui étions rebelles, on était rebelles auparavant. Puis on voit que la vie du Seigneur Jésus a été coupée à court, n'est-ce pas? Pas à cause de son péché, parce que lui était parfaitement soumis à son Père. Puis il pouvait dire que tout ce qu'il faisait, c'était ce que le Père lui donnait de faire. Tout ce qu'il disait, c'est ce que le Père lui donnait de dire. Puis il accomplissait parfaitement la volonté de Dieu. Il était soumis en tout point à son Père. Mais parce qu'il a pris notre place, s'est placé lui-même à un jet de pierre, à l'endroit que nous, on aurait dû être, eh bien, il a reçu le jugement de Dieu. Puis il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à sa lie, jusqu'à la dernière goutte. Et sa vie a été coupée court. Le Seigneur Jésus est décédé vers l'âge de 33 ans. Donc, sa vie a été courte. C'est court, une vie de mourir à 33 ans. Mais c'est à cause de notre péché, pas à cause de son péché, parce que le Seigneur Jésus, il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parce que le Seigneur Jésus, n'étant pas un pécheur, n'était pas sujet à la mort, mais il s'est soumis à la mort pour nous, pour nous sauver de la mort éternelle. Mais ça nous rappelle toujours la relation avec notre Père céleste, hein, quand il parle des enfants ici, là. Puis c'est pour ça que il y a des enfants, des fois, qui n'ont pas de père, surtout dans la société dans laquelle on vit présentement. C'est-à-dire qu'ils ont un père, mais le père est absent. Ou le père n'est pas un bon père. Puis c'est difficile pour des jeunes comme ça. On en a qui viennent à l'assemblée le dimanche soir. Puis des fois, ils ont des problèmes de comportement. Puis il y a un frère qui me disait ça. Il y a des gens, ça leur tape sur les nerfs, puis ils n'aiment pas ça. Mais ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris, c'est qu'il faut leur montrer de l'amour pour leur montrer que quand on leur parle du Père, pour eux, c'est pas une bonne vision qu'ils ont, eux autres, d'un Père. Puis même, mais nous, on sait que notre Père céleste, ben, il est parfait. On sait que notre Père céleste, puis souvent, on apprend comment notre Père céleste nous traite, puis c'est comme ça qu'on veut apprendre à traiter nos enfants, nous autres. Ça fait que c'est important. Mais on va aller dans Hébreux, chapitre 12. On voit comment notre Père céleste, lui, comment est-ce que lui nous traite. Dans Hébreux, au chapitre 12, puis on va lire ici les versets 4 à 11. Donc, 12, 4 à 11. Il dit, au verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Donc le Seigneur, il nous châtie, puis on a besoin, puis merci Seigneur qu'il nous châtie pour ne pas nous laisser aller à nous-mêmes. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Et car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont peur, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. La sainteté de Dieu, ben, c'est d'être mis à part, d'être parfait, mais le Seigneur, il nous fait participer à ça. Puis, en nous corrigeant, en nous châtiant, il nous corrige de cette façon-là. Il dit au verset 11, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, c'est sûr qu'au début, ça nous fait mal, ça nous peine d'être châtié. Puis souvent, des fois, quand on reçoit un châtiment, ça nous fait de la peine d'avoir mérité le châtiment. Mais on remercie le Seigneur pour des parents qui nous ont châtiés, qui nous ont corrigés, pour pas qu'on. Puis quand j'exerçais aussi le châtiment envers mes enfants, je leur expliquais, c'est parce qu'on vous aime qu'on vous châtie, puis c'est parce qu'on veut pas que vous alliez de la mauvaise façon, on veut que vous fassiez des gens qui vont bien fonctionner ensemble, puis aussi dans la société. Mais c'est d'honorer, quand le Seigneur nous châtie, c'est pour notre bien. Maintenant, verset 4, on arrive là, c'était l'instruction pour les enfants. Mais maintenant, au verset 4, il dit, et vous, père. Donc, on voit que le père a l'autorité. C'est lui qui est le chef de la famille. Ça ne veut pas dire que la mère n'a pas d'autorité aussi, mais la mère elle a une autorité au-dessous du père, parce qu'on a parlé que la femme doit se soumettre à son mari comme exemple pour ses enfants. Mais il dit, vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, de ne pas irriter les enfants. C'est important de ne pas irriter nos enfants. Puis des fois, quand on manque de patience, bien là, on va agir peut-être d'une façon qui va irriter les enfants là, ici. Donc, c'est de faire attention qu'il n'y ait pas d'irritant dans la relation. Il faut faire attention à ça. C'est important qu'il n'y ait pas d'irritant dans la relation. Comme un grain de sable qui serait dans un engrenage. Un grain de sable dans un engrenage, ça ne va pas bien. C'est mieux qu'il y ait de l'huile pour que les choses se fassent en douceur. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour ça. Il faut faire attention que la relation avec nos enfants soit bien encadrée dans l'amour. Ça, c'est important. S'il n'y a pas l'amour, ça ne marchera pas. C'est très, très important que la relation qu'on a avec. Puis aussi, vous savez, des fois, le père, OK, il est en autorité au-dessus de la mère, mais qu'est-ce qui se passe à la maison durant la journée? Mais c'est la mère qui est. Puis c'est sage pour le père quand il arrive le soir de souvent, ma mère disait ça, attendez que votre père arrive. Parce que c'était son autorité qu'elle utilisait pour nous dire, mais lui, quand il va arriver, il va régler la situation. Mon père nous disait par la suite, des fois, il allait travailler au nord pour l'hiver, puis il revenait au printemps, mais là, il n'avait pas le goût de nous discipliner quand il arrivait. Il s'avait ennuyé, puis il était content de nous voir. Ou des fois, il travaillait à une mine, puis il était parti pour faire ses chiffres durant la semaine. Puis quand il arrivait, ma mère, elle nous avait dit, attendez que votre père arrive. Puis, mais souvent, mon père, il faisait la discipline juste avant de repartir. Il ne la faisait pas tout de suite, puis des fois, on disait, ah, pour moi, il l'a oublié. Mais non, il ne l'oubliait pas. Mais avant de repartir, là, il disait, ah oui, c'est vrai, on avait des choses à régler. Puis il le faisait, mais on ne s'est pas rebellé contre cette autorité-là parce qu'il le faisait vraiment pour notre bien. Puis on apprécie aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Mais c'est pour ça que faut que ça soit fait dans l'amour. C'est pour ça qu'il y a une réaction aujourd'hui au châtiment corporel. Parce que souvent, c'était les parents, ils manquaient de patience, puis ils perdaient le contrôle. Puis pour un enfant, si le père a perdu le contrôle, puis c'est comme s'il est plus au contrôle de ses actions, ben c'est sûr que l'enfant va avoir peur. Parce qu'il peut dépasser. Il faut jamais que l'enfant se sente insécure dans la présence de son père qui va le châtier. Fait que des fois, c'est mieux d'attendre un peu, si sur le moment, là, d'attendre un peu pour se calmer, puis réfléchir comme il faut pour bien agir dans notre façon de gérer ou de châtier nos enfants. C'est important. Puis de leur expliquer, puis de leur montrer. Une chose que moi j'avais appris, que j'ai trouvé vraiment bénéficiaire, il ne faut jamais frapper ou taper nos enfants avec notre main. Parce que il faut jamais qu'il y ait peur de notre main. Notre main, c'est pour l'affection. Notre main, quand on touche avec la main, c'est l'affection. Il ne faut jamais qu'ils craignent que notre main. Mais nous autres, on avait un petit bâton. On sait qu'aujourd'hui, on peut être en danger juste de parler de ça, là. Mais c'était pas. C'est sûr que si on frappe sans contrôle, mais si on le fait, des fois, on n'a même pas besoin de taper fort. Parce que on faisait ça des fois juste pour voir un peu, là. On tapait en jouant les enfants pour les agacer, puis on les tapait bien plus fort qu'on pouvait les taper avec la petite baguette de bois, là. Mais la petite baguette de bois, juste qui touchait, là, ça se mettait à pleurer, puis ça réagissait. Donc, c'est pas d'abuser. Mais c'est vraiment. Mais le Seigneur, il nous dit, il dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant, puis la verge va la corriger. Donc, c'est pas bien accompli. Aujourd'hui, on va dans un autre extrême. Ce qui était un abus auparavant, mais maintenant, on l'enlève complètement. La loi est contre ces choses-là. Mais c'est pas mauvais si c'est bien fait, là. C'est pas mauvais. C'est très bien, le Seigneur. C'est l'instruction du Seigneur. Donc, il faut faire attention que la relation soit bien encadrée dans l'amour. Il y a un frère à Saint-Andémont, puis lui, il a son petit-fils. Puis il a dû corriger son petit-fils. C'est sûr qu'en tant que grand-parent, on ne corrige pas comme on corrige nos enfants, mais il a donné des paroles à son petit-fils qui était dans une situation. Mais son petit-fils savait que ses grands-parents l'aimaient beaucoup parce qu'ils ont beaucoup passé de temps avec lui. Ils ont beaucoup investi en lui parce qu'ils l'aiment. Puis ce frère-là, il a donné des instructions à son petit-fils, puis son petit-fils l'a écouté. Il l'a écouté, puis ça a été pour le bien dans sa vie, puis ça l'a placé, ça l'a réglé bien des choses. Fait que c'est important vraiment. Vous savez, quand on peut dire des choses difficiles à quelqu'un, puis même si ce n'est pas nos enfants, on peut dire des choses difficiles dans la correction à quelqu'un, mais toujours s'assurer qu'ils sont bien sûrs de notre amour pour eux, que c'est pas, que c'est vraiment par amour qu'on agit. J'ai eu le privilège d'aller souvent dans des camps de jeunesse, puis j'aimais ça, puis on me donnait la cabine des plus vieux, puis j'aimais ça avoir la cabine des plus vieux. C'était plus dur à gérer, mais j'ai découvert quelque chose qui fonctionnait très bien. C'était avoir de la fermeté, puis de l'amour. Ça prenait les deux. Si on avait seulement la fermeté, ça marchait pas. Si on avait seulement l'amour, ça ne marchait pas. Il fallait que ce soit bien les deux ensemble. Une fermeté, on exerçait une discipline, pas c'est sûr qu'avec des enfants, dans un cas, on ne fait pas une discipline corporelle, mais garder le contrôle sur les jeunes, puis les faire réfléchir, mais leur montrer beaucoup d'amour. Puis, moi, j'avais jamais de misère avec mes jeunes dans ma cabine parce que c'est rare que j'ai eu des problèmes parce que je leur montrais de l'amour, mais je leur montrais aussi de la fermeté. Je les laissais pas faire n'importe quoi, mais je leur montrais aussi de l'amour parce que j'aimais ça être avec eux autres dans la cabine. C'était vraiment intéressant. C'est la même chose avec nos enfants aussi. Fait que le but, c'est quoi? Le but final, ben, c'est de les amener à une maturité où ils vont pouvoir fonctionner d'une bonne façon. Donc, vraiment, notre but en élevant nos enfants, c'est de les amener à une maturité qu'ils vont pouvoir fonctionner d'une bonne façon. Ça, c'est important. Puis, il est mention ici des deux façons, là. Il y a le négatif, puis il y a le positif. Voyez-vous, il dit, vous, père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, selon le Seigneur. Donc, il y a une place pour la correction. Aujourd'hui, il n'y a pas de correction. Hein, les gens, souvent, ben, on parle en général, il y a des gens qui ont encore une bonne correction pour leurs enfants dans l'amour. Mais s'il n'y a pas de correction, qu'est-ce qu'on voit le résultat? Ben, ça fait de la rébellion. Parce que c'est à cause de notre cœur qui est méchant. On est tous un cœur méchant, on est des pécheurs. Puis si on est laissé à nous-mêmes, ben, on va s'en aller dans la rébellion. Puis on le voit, hein, il nous parle aujourd'hui de la crise de 2 ans. C'est vrai, il y a des gens qui ont perdu le contrôle sur leurs enfants à 2 ans. Imaginez-vous, si on perdu le contrôle sur leurs enfants à 2 ans, qu'est-ce qui va arriver à l'adolescence? Parce qu'on dit que la crise de l'adolescence se gagne à 2 ans. Puis si à 2 ans, les enfants ont appris, parce que la crise de 2 ans, c'est parce qu'ils n'ont pas appris l'autorité-soumission. Puis ils sont rebelles. Sont rebelles, puis ils peuvent être très rebelles à 2 ans. C'est effrayant de voir comment un enfant peut être rebelle à 2 ans. Puis, ben, c'est parce qu'on leur a pas montré ce principe-là dans leur vie à apprendre. Quand il y a l'autorité, on doit se soumettre à l'autorité. Puis quand ils ont appris ça, s'ils ont appris ça à 2 ans, là, ben, ça va leur servir tout au long de leur vie. Ils vont avoir appris que quand l'autorité parle, on agit, on se soumet. Puis ça, c'est important. Mais ça, c'est la correction qui fait en sorte qu'ils vont apprendre la correction dans l'amour. Mais aussi en les instruisant, parce que c'est pas tout de les corriger, mais il faut aussi les instruire dans la bonne voie. Ça, c'est important. C'est le positif de la relation ici, de les instruire. pour qu'ils puissent marcher. Fait que si on ne donne pas un bon exemple, si on ne donne pas une bonne instruction, ben, vous savez, c'est comme quelqu'un disait en parlant d'un jardin. Un jardin, ce n'est pas juste d'enlever les mauvaises herbes. Parce que ça fait partie, mais ce n'est pas juste d'enlever les mauvaises herbes. Parce qu'on pourrait avoir un stationnement où il n'y a pas de mauvaises herbes. Mais il n'y a pas de fruits non plus. Ça fait que l'instruction est importante aussi. Pour qu'il y ait un bon fruit, c'est important que ce soit. Parce que qu'on leur présente un modèle à suivre, qu'on puisse les aider, pas les contrôler contre leur personnalité, mais de savoir les diriger. Quelqu'un disait que élever des enfants, c'est comme une flèche. Quand elle est dans l'arc, on peut la diriger. Après qu'elle est partie, elle s'en va selon la direction qui lui a été donnée. Quand on barre l'arc, on peut la diriger, mais quand elle laisse l'arc, là, elle s'en va selon la direction qui lui a été donnée. C'est la même chose. On sait que nos enfants, à un moment donné, c'est plus nous autres qui les contrôlons. Ils s'en vont dans leur vie, puis ils vont fonctionner dans la direction qu'on leur a donnée. Il y a des exceptions, mais en général, les enfants, comme je disais tantôt, moi, j'avais remis en question tout l'enseignement que j'avais eu de mes parents, mais quand même, je me suis aperçu que je l'avais. Mon père, c'était quelqu'un qui aimait pas avoir des dettes, puis il payait ses choses. Mon père était connu, puis même je suis revenu dans le village où on a grandi, et eux qui connaissaient bien mon père, ils me faisaient confiance. Les marchands me faisaient confiance à cause de mon père. Parce qu'il savait que mon père payait ses dettes toujours. Fait que, puis, je me suis dit, je faisais le pareil. Je n'aimais pas avoir des dettes, puis je n'aimais pas laisser des choses traîner. Parce que j'avais appris ça de mon père. Mais c'est drôle, par après, mon père est revenu aussi dans la municipalité. Puis là, les nouveaux marchands qui nous avaient connus, ils lui faisaient confiance. Ils disaient à cause de nous autres. Fait que la chose s'est répétée. Mais de leur donner une direction. Parce que le Seigneur nous donne une direction. Hein. On voit dans Éphésiens, dans le chapitre 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, le Seigneur a un but pour nos vies. Puis c'est lui, c'est notre Père, il nous conduit. Puis vous savez, en avançant dans la vie, on s'aperçoit que la plupart de nous autres, on a fait un bon bout de chemin dans notre vie, puis on peut regarder en arrière, puis on voit comment le Seigneur nous a dirigés. Puis on dit, ah, c'est pour ça qu'il m'a fait passer là, parce qu'il fallait que j'arrive ici. Puis on peut voir la direction du Seigneur dans nos vies, puis on voit que c'était vraiment un Père merveilleux qui a connu, qui a su comment nous diriger dans notre vie, quand on a été obéissant. Mais si on n'a pas été obéissant, ben là, on s'aperçoit que des erreurs qu'on a faites, puis les problèmes qu'on s'est causés en n'étant pas obéissant. Les enfants vont faire la même expérience. Donc ici, il ramène, il dit, et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant, puis il revient encore avec selon le Seigneur, comme au verset 20, hein? Obéissez à vos parents selon le Seigneur, puis les parents aussi, en les instruisant selon le Seigneur. Donc, on le fait toujours avec la crainte du Seigneur pour qu'on puisse vraiment agir comme le Seigneur veut qu'on agisse. Parce que si on dirige nos enfants, nous, on est dirigé par notre Père Céleste. Fait que si on est dirigé par notre Père Céleste, si on l'écoute, ça va bien aller. Si on n'écoute pas notre Père Céleste, ben, soyons pas étonnés qu'on va donner l'exemple à nos enfants de ne pas écouter celui qui usurpe l'autorité. Il fait en sorte qu'il mine sa propre autorité. C'est ça que c'est important. Mais les enfants le font selon le Seigneur aussi. Maintenant, on en vient au milieu de travail, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Donc, maintenant, on en vient, c'est dans les milieux de travail. Vous savez, aujourd'hui, souvent, il y a beaucoup de rébellions. Mais c'est sûr, ça a commencé dans la famille, la rébellion, puis ça se transmet dans les milieux de travail. Si on est rebelle dans le milieu de travail, c'est sûr que des fois, il y a des patrons qui ne sont pas faciles. Il y a des patrons qui ne sont pas gentils envers leurs employés. Mais ici, c'est encore une fois, là, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. C'est important parce que toutes ces situations-là, là, qu'on est dedans, sont l'opportunité de démontrer la réalité de notre foi. C'est sûr que les patrons devraient voir que nous, en tant que chrétiens, on est des gens qui sont faciles à diriger, des gens qui sont obéissants. Puis comme il dit ensuite de ça, il dit, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Donc c'est des gens qui font de bon cœur pour le Seigneur premièrement. Parce que, puis les gens vont remarquer ça. Vous savez, ils vont remarquer, nos patrons, si on fait selon le Seigneur, qu'on est obéissant à parce que c'est nos patrons, on est sous leur autorité est déléguée par le Seigneur, puis on le voit comme ça, là. On doit obéir. C'est important parce que c'est des situations où on peut vraiment témoigner de la puissance de l'Évangile dans nos vies. Quand on agit selon le Seigneur, c'est important. Ils ne vont pas faire autrement que de remarquer notre obéissance. On ne le fait pas seulement sous leurs yeux, parce qu'il y a des gens qui vont faire ça seulement sous leurs yeux pour s'attirer la faveur du patron, puis être un peu celui qui est préféré du patron, là. Puis en arrière, ben, ils ne font rien. Mais nous autres, on ne le fait pas comme pour être vu du patron, on le fait comme pour être vu du Seigneur. Fait que ça, c'est quand le patron ne voit pas, le Seigneur nous voit toujours. Il y avait quelqu'un une fois au Québec, c'était un peu difficile parce que ça prend des cartes pour travailler dans les milieux de travail sur la construction. Puis on avait fait des travaux dans le local de l'Assemblée qu'on louait. Puis quand il avait vu les travaux qu'on avait faits, il voulait m'engager pour travailler dans son édifice. Ben, j'ai dit, je peux pas. Ah, mais il dit, c'est pas grave. Il dit, j'ai pas le droit. Oh, mais il dit, personne ne va te voir. Il dit, c'est à l'intérieur. J'ai dit, oui, il y en a un qui va me voir pareil. Il dit, qui ça? J'ai dit, le Seigneur va me voir. Il n'a pas aimé ça, mais c'est sûr que le Seigneur, lui, nous voit tout le temps. Puis, ça nous mène dans des situations où on peut avoir, qu'est-ce qu'on va faire si on se fait prendre? C'est de la désobéissance. Mais il dit, après ça, il dit, on doit obéir avec crainte et tremblement. Voyez-vous qu'il dit ici, là, il dit, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur. OK. J'ai pour plaire aux hommes, sachant que. Et vous, maître. Attendez un petit peu. OK, c'est dans le verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Ici, l'expression avec crainte et tremblement, c'est une expression qu'on retrouve à différents endroits dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens 2, 3, il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état, c'est Paul qui leur parle ici aux Corinthiens, il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et vous, c'était la même expression, les mêmes mots qu'on voit ici, c'est de crainte et de grand tremblement. Quelle était la crainte de Paul envers les Corinthiens? Mais sa crainte était de pouvoir présenter Christ crucifié afin que leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Si vous lisez le contexte d'1 Corinthiens 2, 3, Paul, il était avec crainte et tremblement. Vraiment, il avait peur de ne pas bien leur présenter Christ crucifié. Parce que si leur foi était fondée sur quelque chose d'autre, ce serait mauvais. Ce ne serait pas la bonne façon. Fait qu'ils voulaient que leur foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Puis il a fait bien attention, avec crainte et tremblement, de leur présenter Christ crucifié. Dans 2 Corinthiens 7, 15, il disait, en parlant de Tite, il dit, il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. Donc Tite est allé voir les Corinthiens, puis eux, il dit, Paul, il leur dit là, qu'il y avait un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous, Tite l'avait, et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement. C'était quoi leur crainte et leur tremblement ici? Ben, c'est que leur accueil ne transmette pas leur réception positive du message reçu. Tite avait été envoyé par Paul, puis dans leur comportement, dans leur façon de le recevoir, ben, c'était avec crainte et tremblement. Ils voulaient vraiment démontrer qu'il avait reçu le message que Paul l'avait envoyé pour leur donner. Dans Philippiens 2,12, il dit ici, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Donc ici, la crainte et le tremblement qu'ils avaient, c'était quoi? Ben, c'est de ne pas agir de façon à atteindre la résolution de leur situation parce qu'ils avaient un problème, puis il fallait qu'ils règlent leur problème. Puis Paul, il disait de travailler. Il dit, même si je ne suis pas là, même si je suis absent, encore plus depuis que je suis absent, faites-le pas pour moi. Faites-le pour le Seigneur avec crainte et tremblement. Puis, voyez-vous, dans le chapitre 6, au verset 5, il dit, Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Donc, de faire attention ici, dans cette situation-là, c'est bien de la crainte de ne pas faire d'une façon qui honore le Seigneur. L'expression veut dire, quand on parle de crainte, c'est le mot phobie qu'on a, nous autres, quand on parle de phobie, c'est quelque chose qu'on craint dans un sens, on dit on a la phobie. Ben, c'est ça, c'est qu'il frappe de terreur. Ça veut dire qu'il frappe de terreur. Et tremblement, ben, c'est le mot qu'on a, on parle de des tremors. C'est avec la crainte et tremblement utilisé pour décrire l'anxiété de quelqu'un qui doute de sa capacité à répondre à toutes les exigences, mais qui fait religieusement tout son possible pour remplir son devoir. Donc, il fait tout en sa possibilité pour remplir son devoir d'une façon qui honore le Seigneur, dans la crainte de ne pas être un bon témoignage pour le Seigneur. C'est important, ça. On faut vraiment réaliser ça. C'est sûr que pour plusieurs de nous autres, on est à la retraite, on n'est plus sous des maîtres, mais on doit quand même démontrer cet exemple-là ici, là. Puis il dit dans la simplicité. La simplicité, mais ça veut dire comme non pas seulement sous leurs yeux, c'est sans hypocrisie. Puis on en revient au motif plus élevé, mais c'est comme à Christ, comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, comme servant le Seigneur. Puis au verset 6, on ne le fait pas pour s'attirer des faveurs, mais pour recevoir l'approbation du Seigneur. C'est pas vraiment qu'on. Peut-être que notre patron, il va pas vraiment apprécier, ça se peut, mais le Seigneur, lui, va l'apprécier. Puis c'est ça qui est important. Puis au verset 7, il nous dit, servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes. Puis ici, avec le meilleur de notre habilité, de la même façon que nous servons le Seigneur avec dévotion. Fait qu'on le fait de la même façon qu'on sert le Seigneur, car vraiment, on est en train de servir le Seigneur en le faisant. Parce que 1 Corinthiens 10, 31, il dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Fait que tout ce qu'on fait sur la terre, on le fait toujours pour donner gloire à Dieu, pour manifester que Dieu est notre maître, que c'est lui vraiment, c'est sous son autorité à lui qu'on agit dans toutes les circonstances de notre vie. Le temps est arrivé, on va s'arrêter là pour ce soir. On continuera avec les maîtres vers la fin des ceux qui sont des employés, des serviteurs. Puis après, on va regarder pour le maître. Fait que je m'arrête là pour ce soir, puis je vous donne la possibilité de reprendre votre micro. Puis si vous avez des commentaires ou des questions, on va passer les derniers moments à discuter ces choses-là.
Gérard, j'ai besoin de la référence pour ce que tu as donné dans le titre.
Ah, peut-être. Ouais, c'était dans Corinthiens, quand il parlait de Tite, il disait dans 2 Corinthiens 7, 15, que Tite était, il dit que Tite éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et tremblement.
OK, merci.
Je vais prendre la parole un petit peu.
Oui, bienvenue.
Quand on fait cette étude-là, pour ma part, puis ceux-là qu'on est au Seigneur, moi, ma femme, elle m'a connu avant que je sois sauvé. Elle voyait de quelle manière mon caractère, comment que j'étais. Puis mes enfants aussi ont vu. Avant que je sois sauvé, de quelle manière que je pouvais élever mes enfants. Puis on a vu mon caractère. Ça fait deux manières complètement différentes. Une, c'était selon le monde,
Mmh.
selon ce qu'on avait appris dans le monde.
Oui.
Puis l'autre, ben, c'était selon le Seigneur. Quand j'ai accepté le Seigneur, ben là, mon affection pour ma femme était différente. Ça ne veut pas dire que je ne l'aimais pas avant, mais je l'aimais. Je me suis mis à l'aimer selon le Seigneur. Puis mes enfants, ben, ils ont vu leur père qui a changé beaucoup. Puis le changement de leur père, ça a touché leur cœur parce que quand ils ont accepté le Seigneur, dans leur témoignage qu'ils donnaient, ils ont vu le changement dans ma vie. Ça leur a parlé beaucoup. Fait que ça fait toute la différence selon le Seigneur, quand on a le Seigneur, et selon l'homme, selon la chair et selon le monde, c'est complètement différent. C'est une relation avec les enfants puis avec ma femme, une relation d'amour, une relation dont on veut leur bien. On ne pense pas à nous autres, on pense à eux autres. Si on avait du côté de ma femme, c'est pareil. C'est tout un changement qui se passe dans notre vie. Puis ça, ben, ce n'est pas nous autres qui le fait.
Non.
C'est le Seigneur qui fait son travail dans
Amen.
notre cœur. Puis là, ben, en faisant le travail, il y a des bénédictions qui en suivent. Et c'est
Oui.
des bénédictions célestes qui viennent du Seigneur, qui ne viennent pas de moi. C'est pas là, moi j'étais. Avant, j'étais moi. Maintenant, ben, des personnes sauvées qui appartiennent au Seigneur, qui veut faire la volonté du Seigneur dans l'amour. Puis c'est tout un changement dans notre vie. C'est ça que je voulais rajouter parce que c'est quand on vit ces choses-là,
Oui.
c'est qu'on regarde des années après qu'est-ce qui s'est passé,
Oui.
où c'est qu'on était, maintenant où ce qu'on est, puis où qu'on s'en va.
Oui.
L'espérance céleste. C'est
Oui.
merveilleux de savoir où ce qu'on va.
Oui.
C'est merveilleux de savoir qu'on va être auprès du Seigneur pour l'éternité, dans sa présence, de voir le Seigneur dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur. Puis on va être à ses côtés parce qu'on est l'épouse. On est l'épouse du Christ. Mon épouse est à côté de moi et nous, en tant qu'épouse, on va être à côté du Seigneur. Puis le Seigneur, son épouse est très importante pour lui.
Oui.
Parce qu'il a payé un prix immense pour avoir son épouse. Il a donné sa vie, puis il a versé son sang précieux pour avoir son épouse.
Ouais.
Quand tu regardes à ça, c'est merveilleux. Faut
Amen.
dire merci, Seigneur. Je voulais ajouter ça par rapport à l'étude.
Ça prouve que les instructions du Seigneur sont importantes. Ça fait tout un témoignage puissant.
J'aurais envie de faire une petite réflexion, moi
Ben
aussi.
oui, ben oui.
Disons que j'étais heureux de connaître l'Évangile un jour parce que j'ai appris que Dieu n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur. Et ça, ben, avec ma relation, mes étudiants, des gars de 18-20 ans, ça leur a fait en sorte que j'ai toujours aimé mes étudiants parce que je voulais qu'ils soient sauvés, premièrement. Et puis, ça m'arrivait de les reprendre pour ce qu'ils faisaient de ce qui n'était pas correct. Mais j'avais toujours de l'amour pour eux autres. Ça m'a toujours aidé dans l'enseignement. Je remercie Dieu pour ça. Mes étudiants savaient que je les aimais, mais je pouvais les reprendre aussi, là. Puis ils comprenaient ça très, très bien. Et quand on se laissait le vendredi soir, j'avais toujours ce verset-là de Éphésiens 6:2, et je leur disais, n'oubliez pas qu'il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tes jours soient prolongés sur la terre.
Amen.
Toujours laissé comme ça les vendredis soirs. Et c'est une parole, je disais, que vous croyez pas, ou que vous croyez, si vous faites cela, vous allez être béni.
Amen.
Parce que Dieu respecte sa parole.
Ouais. C'est ça, on met sa parole à l'épreuve, on la trouve vraie.
Concernant le fait de ne pas hériter nos enfants, c'est sûr que c'est une réalité que si on corrige nos enfants de la mauvaise manière, qu'on le fait avec colère, c'est sûr que ça irrite les enfants. Mais j'ai déjà entendu dire le contraire aussi. Le fait de ne pas corriger nos enfants, de laisser faire. Si le père laisse faire toutes les mauvaises choses ou mauvaises attitudes que l'enfant a, est-ce que ça irrite pas les enfants, ça aussi? Parce que quand l'enfant a mal fait, il sait qu'il a mal fait, puis il s'attend à une réaction. Normalement, il s'attend à une réaction de son père parce que là, il se trouve coupable. Puis si le père agit pas, la culpabilité reste. Tandis que si le père corrige, là, l'enfant est libéré de sa culpabilité. Fait que
Moi,
je pense que c'est...
ça nous amène à réfléchir comme Kant dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, ça règle la situation.
Puis je pense que ces vérités-là s'adressent surtout aux enfants dans un jeune âge. Il faut que ça soit déjà appliqué dans un jeune âge. Tu as parlé que quand on a gagné notre enfant de 2 ans, on a gagné pour le reste. Pour le reste. Donc, il faut pas hésiter quand ils sont très, très jeunes, très, très jeunes, de les corriger.
Oui, c'est ça. C'est plus facile.
Ouais. La correction physique, justement, ça s'applique plus aux jeunes enfants. À un moment donné, quand ils sont plus vieux, il n'y a plus de correction physique, là.
Non, ils ont
Là, on est plus
appris.
vraiment irrité, là.
Oui.
Mais
Parce...
les très jeunes enfants, c'est le langage qu'ils comprennent le mieux, finalement, la correction physique.
C'est sûr qu'avec quand tu es rendu avec un adolescent, là, tu n'es plus à ce stage-là.
C'est beaucoup de temps.
Parce que ça peut
Ça
être un problème.
complètement. Surtout quand tu sors plus grand que nous autres.
Oui.
Je ne rentrerai pas chez toi quand ils sont plus
Je disais ça à mon garçon en face. Je disais, mais là, j'en profite pendant que je suis encore capable de le faire. À un moment donné, je ne serai plus capable, c'est tout plus fort que moi.
grand.
Mais oh, c'était une farce qu'on avait entre nous autres. Mais ils apprennent à nous respecter, puis quand ils sont plus âgés, ils nous respectent encore. Ça fait une bonne relation avec nos enfants, puis c'est merveilleux. C'est sûr qu'à un moment donné, quand ils tombent à leur compte, là, tu sais, quand un jeune homme se marie, dit il quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, puis les deux deviendront une seule chair. C'est que maintenant, la relation, puis faut faire attention aussi quand on arrive à ce point-là, quand ils se détachent de nous autres pour fonder leur foyer, mais là, on n'a plus la même relation là, avec eux autres. Mais souvent, comme moi, mes enfants, quand ils vont me demander conseil, et je leur dis, OK, moi, c'est ça que je ferais, mais fais ce que tu veux avec ça. Ça, c'est ton choix, là. Moi, je te donne. Mais ils me demandent toujours, je les oblige jamais de faire ce que je dis, parce que là, c'est plus à moi, c'est leur business, eux autres, mais je leur dis, OK, moi, c'est ça que je ferais, mais toi, tu fais ce que tu veux avec ça. Puis souvent, ils suivent le conseil. Bon, mais notre temps est arrivé. Oui, on est rendu à 9h01. Ça fait qu'on va terminer avec la prière. Puis ensuite de ça, ceux qui doivent partir pourront le faire. Puis ceux qui veulent discuter, comme toujours, on peut discuter encore après. Seigneur notre Dieu, merci parce que toi, tu es le Père par perfection. Tu es un Père qui, tu nous corriges, tu nous instruis, tu nous donnes l'instruction qu'on doit suivre. On te remercie, Seigneur, parce qu'on sait une chose, qu'on a connu ton amour, parce que tu as donné ton Fils unique pour nous. Puis tu l'as prouvé ton amour parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On te remercie pour ça, Seigneur. Puis on est confiant, on est heureux, Seigneur, puis on veut vraiment se soumettre à toi. Même, puis on te remercie même pour le châtiment que tu nous donnes, parce que c'est pour notre bien. Ça produit toujours un fruit paisible de justice. On te remercie encore une fois. Merci pour tous ceux qui sont là ce soir, puis on te demande de nous garder dans tes voies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.